Nous allons lire en Matthieu chapitre 4 au verset 1 et nous allons regarder particulièrement les derniers versets de ce passage. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous l'eau du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Enfin, ce texte que nous allons regarder ce matin, le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voilà, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Notre Dieu, nous comptons sur toi, Seigneur, pour diriger ces moments afin de parler à nos cœurs et de nous apprendre à être victorieux face à l'adversaire, dans le nom de Christ. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout premier message, je vous avais laissé cette question. Que faites-vous face à la tentation du diable? Et on avait même vu que Dieu permet que Jésus-Christ soit tenté et qu'il était poussé par le Saint-Esprit d'aller dans un lieu où Dieu le Père savait parfaitement que Dieu le Fils allait être tenté. Rien ne nous arrive quelque part qui ne soit pas sous l'œil, le regard de Dieu. Et même au sein de l'épreuve et la tentation, Dieu est là. Vous vous souvenez peut-être l'illustration où un chrétien se plaint de voir que finalement, alors que d'habitude son Seigneur marche à ses côtés et sur les traces du bord de l'océan, de la plage, il y a les quatre empreintes, celle du croyant et puis celle de son Seigneur qui marche avec lui. Et puis tout d'un coup, il ne voit que deux traces. Et alors il pense que le Seigneur l'a abandonné et le Seigneur de lui dire, mais non, c'est à ce moment-là que je te portais. C'est vrai que quand ça va mal, on croirait que le Seigneur n'est plus là, alors qu'il est toujours là. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne regarde pas, n'aie pas de regards inquiets, toi que j'ai appelé des extrémités de la terre, je te soutiens de ma droite triomphante, toi que j'ai appelé Israël, disait Dieu à Jacob. C'est la même chose pour nous. Dieu est avec nous. Nous n'avons pas à craindre. Dieu est là partout où nous nous trouvons, dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons. Bien sûr que nous n'aimons pas être tentés par le diable. Nous n'aimons pas être tentés par soi-même. Mais là, il s'agit du diable. Nous n'aimons pas la présence du diable. Nous n'aimons pas réaliser que le diable nous tend des pièges dans lesquels il voudrait que l'on tombe. Heureusement que le Seigneur est avec nous. D'ailleurs, une chose que l'on découvre lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, on découvre son ennemi, le diable. Et on n'aime pas ça. Et pourtant, c'est une réalité à laquelle il faut faire face jour après jour, que la tentation est là et que Dieu permet la tentation, mais dans des buts bien précis. La preuve, le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus a été même préparé à la tentation 40 jours, 40 nuits. Il y a une version où il est écrit qu'il eut faim, mais il était carrément tourmenté par la faim. Et le diable a voulu essayer de rendre le Seigneur Jésus indépendant de Dieu le Père. Il était complètement dépendant, même le moment où il devait manger. Ça dépendait de Dieu le Père. Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et la première ruse de Satan, ça a été essayer de couper la communion de dépendance totale de Dieu le Fils avec Dieu le Père. Et c'est la même chose dans nos vies. Satan a pour ruse de nous faire chuter afin de rompre notre communion avec Dieu le Père. Un croyant qui est plus en communion avec Dieu le Père, à quoi est-il bon? Ben, pas grand-chose. C'est pour ça que le diable nous tente pour essayer de nous faire chuter, de faire perdre notre joie, la puissance de Dieu dans nos vies, l'onction du Saint-Esprit, pour que nous soyons des chrétiens vaincus. alors que Dieu nous dit que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Est-ce que la victoire de Christ est la nôtre? Et c'est bon de lire ça. Alors bien sûr, Jésus-Christ est Dieu. Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu, mais il a été tenté en toutes choses, la Bible dit, sans jamais pécher. Est-ce que Christ a péché dans sa vie? Non. Il était parfaitement homme, parfaitement Dieu, il n'a jamais péché. Mais nous sommes, une fois que nous sommes régénérés par Dieu, nous sommes au bénéfice de la victoire qui est celle de Jésus-Christ, notamment ici, dans ce désert, ce lieu solitaire où Dieu, le Père, a placé son Fils. En fait, Dieu a préparé son Fils à cette tentation pendant 40 jours et 40 nuits. Ensuite, le diable l'a poussé à ce qu'il se serve soi-même, en quelque sorte. C'est d'essayer de faire quelque chose par soi-même, de prendre quelque chose par soi-même, sans que Dieu nous en ait donné le feu vert ou le momentum. Il est si facile de ne pas être dans la volonté de Dieu, mais quel bénéfice d'être dans la volonté de Dieu. Gardons-nous, frères et sœurs, de vouloir prendre quelque chose que Dieu ne nous a pas encore donné, même si ça nous paraît légitime. Car il y a le temps de Dieu, et le temps de Dieu est parfait. Et quelle bénédiction, quelle joie d'obéissance d'attendre le moment de Dieu, parce que c'est Dieu qui est là, présent pour nous. Quelle gloire d'attendre la bénédiction de Dieu. Et la deuxième chose qu'a fait le diable, n'est-ce pas, c'est de vouloir pousser Jésus à ce que lui intervienne. La première fois, c'est Jésus qui doit faire quelque chose. La deuxième fois, il est poussé Jésus à tenter Dieu le Père pour que Dieu fasse quelque chose. Et ainsi, on a vu qu'il y a le danger pour le croyant de vivre par présomption, de tenter Dieu, c'est-à-dire lui demander des miracles, des effets de sa toute-puissance, sans nécessité de, quelque part, imposer que Dieu intervienne. Et parfois, dans nos volontés, notre façon de prier, « Oui, Dieu, tu dois intervenir. » Mais Dieu agit comme il lui semble bon. « Sachez que je suis Dieu. » Et notre Père qui a fait les cieux et la terre, même si notre Dieu est devenu notre Père, il reste au contrôle, il devrait rester au contrôle de nos vies. Et nous, nous devons être assez humbles pour attendre de lui ses interventions et ne pas le tenter d'intervenir parce que parfois nous voulons et plutôt nous confondons notre volonté avec la sienne. Et nous prions que Dieu bénisse notre volonté comme si c'était la sienne alors que nous le tentons. Reconnaissons-le. Ainsi, quelle grâce de découvrir dans ce texte que le Seigneur Jésus veut nous apprendre au travers du même chemin que lui, à dépendre de Dieu le Père en toutes choses, et à veiller et à répondre aux tentations du diable par la parole. Vous savez que c'est la même tentation que le diable a faite à Adam et Ève, un petit peu dans le jardin d'Éden, et nous avons par contre ici l'exemple que nous devons résister au diable en lui répondant par la parole de Dieu, même si le diable a donné à falsifier la Bible, on l'a vu la dernière fois. Alors tout ça pour nous ramener à Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, où il est écrit que le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors, est-ce que Jésus avait tous ces royaumes comme ça, ou est-ce que c'est une vision que Satan lui a donnée? Peu importe, mais en fait, c'est encore une tentation pour corrompre Jésus. En fait, Satan veut corrompre l'homme. En fait, ce qu'il désire là, c'est carrément l'âme de Jésus. Ça, il y a des gens qui vont vers des guérisseurs, des voyants, des diseurs de bonne aventure, en pensant que quelque part, ils allaient recevoir quelque chose sans savoir qu'ils sont en train de se lier avec le diable. Le diable, lui, veut l'âme. Il veut l'âme et en fait, il veut corrompre, même ici, Jésus et l'induire à l'adorer. Rien que ça. Mais là, il y a la révélation de qui est vraiment le diable. Alors, il a d'abord suggéré, comme j'ai déjà dit, que Jésus devait faire quelque chose pour lui-même, dont se servir soi-même. Ensuite, il a suggéré ce que le Père devait faire pour le Fils. Et maintenant, il suggère ce que Satan pourrait faire à Jésus en échange de ce que Jésus pourrait faire pour lui. Ça nous permet de comprendre une chose, c'est que le diable est capable de donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Je vais vous donner une illustration de cela qui, pour ma part, m'a bouleversé. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui a donné une conférence à laquelle j'assistais, c'est comme ça que je l'ai rencontré au Québec, et qui était devenu homosexuel après avoir été, alors j'ai oublié le nom, enfin celui qui dirige les disques dans les boîtes de nuit. Hein? DJ, bon, je ne sais pas si c'est compris par tout le monde, mais enfin, voilà, bon, sans commentaire. Alors, il racontait qu'en fait, avec ses disques subliminaux, il arrivait, n'est-ce pas, à jouer là-dessus, lui-même étant devenu homosexuel sans aucune tendance au travers de ce travail. Je dis ça parce que cet homme a été libéré, c'est pour ça qu'il a témoigné. Il disait qu'au travers de ses disques et messages, il était parfaitement bilingue. Il nous a traduit d'ailleurs toutes sortes de chants où carrément, dans ses messages, il était dit que le diable réclamait l'adoration. On ne peut pas jouer avec le diable. Il racontait l'histoire d'un homme et d'un groupe de musical, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, c'est le principe à retenir, qui, tout d'un coup, a un succès extraordinaire parce que il s'était donné corps et âme au diable. Ah, le diable peut donner du succès, mais à quel prix? Le prix peut être d'être lié et d'être perdu à jamais. On ne joue pas avec le diable. Et pourtant, le diable s'est permis de se présenter devant le Christ et de lui montrer tous ses royaumes. Alors peut-être c'est l'Égypte avec ses pyramides, ses temples, la librairie d'Alexandrie, imaginez, les vastes trésors, la puissance, la splendeur de Rome, la grande Athènes, la magnificence de Rome et toute son autorité au travers de tout le bassin méditerranéen. Il dit, voilà, je te donne cela. Mais est-ce qu'il avait le droit de donner quelque chose qui ne lui appartenait pas? En fait, oui, ça lui appartient. Parce que Dieu dit qu'il est le prince de ce monde et le Dieu de ce siècle. En fait, il aurait pu réellement donner ses royaumes à Jésus parce qu'il a le pouvoir sur ses royaumes jusqu'à ce que Dieu révèle que Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et dans l'Apocalypse, celui qui est monté sur le cheval blanc revient comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est magnifique cela. Il est déjà le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est un mystère que Dieu permet que Satan, pour un temps, soit le prince de ce monde. Et c'est vrai que ce monde, entre guillemets, lui appartient parce que les hommes, malheureusement, ont choisi plutôt le mal que le bien. Alors, Satan disait en fait ceci, « Je peux accomplir la volonté de Dieu. » Écoutez-moi bien ici. C'est un commentateur qui dit ceci, « Je peux accomplir, en fait c'est les mots de Satan, quelque sorte dans sa ruse, « Je peux accomplir la volonté de Dieu pour toi et tu peux dès maintenant avoir les royaumes de ce monde. » Voyons voir, Jésus, pour être couronné de roi, quelqu'un l'a dit ce matin, il devait être couronné d'épines. C'est pas qu'il n'était pas déjà le roi, mais Dieu l'a testé, l'a tenté et a voulu l'amener à la croix pour le couronner roi des rois, pour le sauver le monde. Mais il n'y aurait jamais eu de couronne glorieuse s'il n'avait pas d'abord été crucifié. En fait, ce que proposait Satan, c'était d'éviter à Jésus quoi ? Le chemin de la croix. De ne pas prendre ce chemin douloureux et humiliant. Et c'est la même chose, frères et sœurs, envers le monde. C'est ce que Satan fait envers le monde et envers les croyants. Il permet de faire briller certaines choses. Carrière, pouvoir, jouissance, tous les dieux de ce siècle, comme si nous ne devions pas attendre un jour d'avoir la vraie récompense qui est, elle, céleste. Ne faisons pas de compromis avec le diable, n'allons pas recevoir de lui ce que Dieu ne veut pas nous donner, parce qu'il a du meilleur pour nous, non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux, au siècle des siècles, afin que nous régnions avec lui dans toute sa gloire. Ne faisons pas de compromis avec le diable, ne lui tendons pas la main, parce que lui veut nous prendre. Et ce qu'il va nous donner en apparence comme gloire, célébrité, tout ce qui est dans le monde des affaires, les stars, pour pas parler, bon, je vais m'arrêter là, le monde politique, etc., ce n'est qu'un leurre, ce ne sont que des illustrations qui entraînent les gens à la perdition. Est-ce que nous voulons aller dans ce courant de ce monde ? Satan est le tentateur, il a commencé avec Ève, vous vous souvenez ? Il a dit « tu ne mourras pas ». Il a dit à Ève qu'elle ne mourrait pas. Est-ce que Dieu avait dit qu'elle mourrait? Oui, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Pourtant, Dieu avait dit, tu mourras. Donc, le diable est un menteur. C'est un trompeur, c'est un usurpateur, et il veut nous faire croire des choses qui sont fausses. Parce que vous savez quoi? Il veut prendre la place de Dieu. Oh! Les gens ne le savent peut-être pas. Ils ne savent pas que quand Dieu n'est pas premier, il y a peut-être un autre qui est premier. En fait, par le mensonge, Satan nous offre le monde avec tous ses attraits, au promis de notre désobéissance envers Dieu. Suivre Satan, c'est suivre le mensonge. Alors Satan nous tente de toute manière, de toute façon, de différentes stratégies, mais ça me fait penser à ceci. Lorsque nous désirons suivre le Seigneur et marcher avec lui de façon intègre, est-ce que ça vaut la peine de faire compromettre nos standards de foi, d'éthique, de sainteté, de vie pure pour le Seigneur? Oh, tu peux me donner ça un petit peu, c'est pas si grave que ça, nous dit le diable. Oh, il nous le dit peut-être pas comme ça, c'est pas si grave que ça, un petit mensonge, une petite tromperie, un petit péché par-ci, un petit péché par-là. Écoute, là, c'est pas si grave que ça. Mais vous savez, comme a dit quelqu'un un jour, vous pouvez mettre un fil entre deux poignets et le croyant peut sentir libre. On peut mettre un deuxième, on peut sentir libre. Arriver au dixième, un petit fil qui semble innocent, mais rouler 10 fois autour des poignets peut rendre esclave le croyant. C'est la ruse du diable afin de nous empêcher de suivre le Seigneur Jésus dans toute la vérité. C'est celui aussi de la contrefaçon. Je dis ceci parce qu'il essaye de donner quelque chose à Jésus que Dieu le Père va lui donner. Donc qui prend une autorité sur Jésus qui n'a pas à prendre? Tout ça pour l'empêcher d'aller mourir à la croix pour sauver le monde. Satan essaie par toutes sortes de contrefaçons de nous éviter, écoutez-moi bien, à passer par la croix. Comment fait-il? Il peut même permettre que des enfants de Dieu aient des expériences spirituelles exaltantes, apparemment extraordinaires. Il peut singer Dieu, faire toutes sortes de contrefaçons spirituelles et amener le croyant, même s'il est sincère, dans des expériences qui peuvent l'entraîner dans des émotions ou des expériences spirituelles qui ne sont pas dans le Seigneur. Quel piège! On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur, je peux vous le dire. Et il y en a beaucoup de croyants qui se laissent imiter, qui se laissent séduire comme ça par Satan, qui créent des contrefaçons, parce que si on regarde bien les Écritures, et ce que nous demande Jésus, c'est de mourir à soi-même. C'est de passer par la croix constamment. C'est pas d'aller d'expérience en expérience, c'est de mourir et de se soumettre aux Écritures. Et Dieu peut permettre des choses extraordinaires dans nos vies, dans sa souveraineté, mais toujours dans l'humilité, dépendant de lui, en son temps, en son heure, parce que c'est lui qui reste notre Dieu. N'essayons pas de chercher des expériences. Ça pourrait être un piège, une séduction. Il y a un leurre et des illusions pour nous les enfants de Dieu. En fait, ce que demandait Satan, c'était l'âme de Jésus. Vous vous rendez compte? Satan s'est permis, devant Jésus, le Fils de Dieu, d'essayer de saisir son âme, de posséder son âme, de tromper son âme. Est-ce qu'il ne fait pas la même chose pour les êtres humains en général? En fait, Satan a en horreur Dieu. Parce que Dieu est le premier, parce que Dieu a toute puissance. Satan, lui, voudrait être le premier. Il est frustré parce que, malgré la puissance qu'il a, il n'est pas Dieu. Donc, il voudrait que les autres l'adorent. En fait, si Jésus avait cédé, il n'aurait pas racheté le monde, il aurait rejoint le monde. S'il avait cédé, il n'aurait pas pu hériter du monde, on se comprend, mais il aurait perdu le monde de la main de Dieu le Père. Alors Jésus a répondu, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et c'est là une façon, nous-mêmes, de nous approprier la victoire de Dieu en Jésus-Christ, c'est d'adorer Dieu en esprit, en vérité, et de le servir. Lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur, eh bien, nous ne servons plus nous-mêmes. Nous ne tentons pas Dieu parce que nous dépendons de lui, nous sommes à la bonne place parce que nous donnons gloire à Dieu par notre service. Une bonne façon d'être victorieux dans nos vies, c'est de servir le Seigneur. Et pour faire face au diable, c'est d'utiliser les Écritures, comme a fait Jésus, qui a utilisé ici le passage de Deutéronome 6, verset 13. Deutéronome 6, verset 13, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Quelle grâce de savoir que parce que Jésus n'a pas reçu des mains du diable ce royaume usurpé, un jour nous allons le recevoir de ses mains parce qu'il l'a gagné à la croix. Il s'est abaissé pour un temps et Dieu l'a élevé pour toujours. Nous aussi, nous participerons à ce royaume. Il est écrit « Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre ». Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Or, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et Jacques d'ajouter, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Alors, n'essayons pas de recevoir autre chose que ce que Dieu veut nous donner, parce que ce qu'il veut nous donner, c'est largement le meilleur. Et c'est d'être avec Christ pour toujours, co-héritier avec Christ. Alors gardons-nous des séductions du diable et des effets éphémères qu'il voudrait nous donner. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, j'ai pas pu m'empêcher de réfléchir là-dessus. Satan veut prendre la première place. Une fois qu'on est sauvé, le Seigneur est en nous. Est-ce que Satan veut encore prendre la première place? Mais oui. Comment fait-il? Eh bien, je pense que du temps de Daniel, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui était un peu quand même centré sur lui-même, un peu beaucoup, et qui a fait une immense statue. Et au son de je ne sais plus quel instrument, tout le monde devait, n'est-ce pas, s'incliner devant le roi, cette statue, pour démontrer, voilà, il s'est fait Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? La statue un jour est tombé. Et Dieu a jugé Nebuchadnezzar. L'orgueil précède la chute. Parce qu'il s'est fait Dieu lui-même. Vous souvenez Hérode, quand on lui a dit « parole d'un Dieu », il a été rongé par les vers. Ça, c'est la réponse de l'Église, hein, de la prière de l'Église. L'homme se fait égal à Dieu. Comme a dit quelqu'un, Dieu a voulu se faire homme, tandis que l'homme, lui, veut se faire Dieu. C'est un philosophe qui a dit ça, et c'est vrai. Mais vous savez, en Afrique, notre frère a partagé, j'ai beaucoup apprécié le témoignage d'Éric ce matin, où il a montré quelque chose que la tradition, quelle qu'elle soit, à un moment donné, doit être mise à côté par rapport à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit avoir la première place. Alors en Afrique, eh bien, elle est mise. Qu'est-ce qu'on fait? On adore les esprits au travers des objets, des cultes, toutes sortes de choses. On se dit, oh là là, mais c'est archaïque ça, c'est moyenâgeux. Vous croyez que nous, on va faire ça en Occident? Ah, oh, mais on a d'autres dieux. On a le dieu du sport, on a le dieu de Vénus, le mammon, le dieu de l'argent, le dieu de la politique, des affaires. C'est incroyable comme le diable, la Bible dit qu'il est un ange de lumière et qu'il se faufile d'une manière ou d'une autre. Croyez-vous que les gens soient plus tourmentés en Afrique qu'en Occident? C'est pas vrai. La France est le pays au monde où on prend le plus d'anxiolytiques. Parce que quelque part, il y a des dépressions. Alors, c'est incroyable comment le diable prend la première place sous une forme déguisée. Il veut créer chez le croyant une forme d'idolâtrie, ça s'appelle l'amour de l'argent, l'avarice, la convoitise, la gloutonnerie, toutes les formes d'idolâtrie où Christ n'est plus le premier. D'ailleurs, Romain nous dit ceci, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Notre vocation, c'est la gloire de Dieu. Notre vocation, c'est d'être des adorateurs en esprit et en vérité et de donner toute la place à Dieu pour qu'il ait toute la gloire à cause de son Fils Jésus-Christ. Christ a eu la victoire. Quand nous lisons dans le texte ici, il a ordonné à Satan, « Retire-toi, Satan !» Et Satan est parti au verset 11, « Alors Satan le laissa. » Christ avait été préparé à la tentation. Il a résisté à la tentation de se servir soi-même. Il a résisté à la tentation de tenter Dieu. Il a résisté à la tentation d'adorer Satan. Et voilà maintenant, après l'épreuve, le triomphe. Satan s'en va et des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. J'aimerais juste faire une petite remarque, c'est que dans un passage parallèle, il est écrit que Satan s'en alla et en attendant un moment plus favorable, un autre moment favorable. Autrement dit, notre combat spirituel est à vie, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle dans un sens, mais en même temps, ça nous permet de nous blottir au sein de Dieu et de pouvoir avoir la victoire, parce que lui seul donne la victoire, Jésus-Christ. Vous êtes tenté par le diable, que faites-vous face à la tentation du diable? Ici, il est écrit ceci, en Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et il est écrit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il n'y a aucune épreuve qu'on ne peut traverser par l'aide du Seigneur. » Voilà ce qu'a dit Jésus dans ces mots, entre guillemets. « Je crois en toi, mon Père. Je ne céderai pas à la tentation. Je crois en ta parole et je reste en toi, en Dieu. » Face à la tentation, avons-nous, frères et sœurs, la même réaction? « Seigneur, je crois en toi. Je m'attache à toi. Je reste attaché à ta parole. » Parce que ta parole est la vérité. Pour conclure, frères et sœurs bien-aimés, Satan nous tente de la même façon qu'il a tenté Jésus-Christ. D'abord, il essaiera de nous pousser à douter des soins providentiels de notre Père céleste, afin que nous essayions de résoudre par nous-mêmes nos problèmes, surmonter nos difficultés et combler nos besoins selon nos propres plans et dans nos propres capacités. « Seigneur, tu es tout puissant, mais je vais t'aider un petit peu. » Ça, c'est une façon de vivre la vie chrétienne dans ses propres capacités. Deuxièmement, il essaiera de nous pousser à présumer des soins du pardon de Dieu en nous mettant volontairement nous-mêmes sur un chemin de danger, quoi que ce soit sur le plan physique, économique, moral, spirituel ou autre, dans le sens que nous faisons des choses où nous sommes placés en danger, et là, tout d'un coup, nous appelons Dieu. Notamment, évidemment, le danger du péché. Troisièmement, il nous poussera, le diable, à des ambitions égoïstes et essaiera de nous pousser à utiliser nos propres schémas pour combler les promesses que Dieu nous a faites, qui nous réduit à remplir les plans de Dieu à la manière de Satan. Vous savez ce qu'a fait Abraham un jour? Il est allé voir Agar. Et ainsi de suite. C'est subtil, le chemin de la chair, attisé par la pensée du diable. En fait, ces trois approches qu'on a vues sont mentionnées en 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La tentation de Jésus de changer les pierres en pain était pour satisfaire la convoitise de la chair, en utilisant ses pouvoirs divins à des fins égoïstes. La tentation de se jeter du haut du temple était la convoitise des yeux pour épater le monde, rechercher la renommée au travers du sensationnalisme. On a parlé de ça la dernière fois, j'y reviens pas. Et la tentation de saisir le contrôle immédiat des royaumes de ce monde était l'orgueil de la vie en se soumettant au pouvoir et volonté de Satan en dehors du plan de Dieu. Que faire lorsque nous sommes tentés par le diable? Nous avons ici l'exemple de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, victorieux en toutes choses. Comment a-t-il résisté au diable? Il a gardé les yeux fixés sur Dieu le Père, il n'a pas voulu céder le terrain devant la tentation et la pression du diable, il s'est réfugié dans la parole de Dieu et Dieu l'a béni parce qu'il voulait rester dans le plan de Dieu. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin, qui que nous soyons, qui fait face à une tentation particulière du diable, que Dieu permet peut-être dans votre vie, un chemin particulier, sachez que Dieu a une réponse. Sachez que Dieu vous aime, qu'il reste votre Père et qu'il veut vous soutenir au moment de la tentation, jusqu'à ce que le diable s'en aille.